L'arme monétaire dans l'art de la guerre commerciale. Pour la deuxième journée consécutive, la Banque centrale chinoise a fixé un taux de change avec le dollar en dessous de 7 yuan pour un dollar. Alors à Pékin, on rejette les accusations de manipulation de la monnaie. Que faut-il en penser? Bonjour Jean-François Di Meglio.
Bonjour.
Vous êtes président de l'Institut de recherche Asia Center, président de la publication Asia Trends. Alors, rappelez-nous, quel est l'intérêt pour un pays comme la Chine de dévaluer sa monnaie?
Naturellement, c'est de favoriser ses exportations. On sait que dans la guerre commerciale, il y a effectivement un jeu qui consiste à dire vous exportez trop, ça c'est les Américains qui disent ça, et nous n'avons pas assez de barrières. C'est la conséquence, ça a été effectivement de mettre des barrières, des taxes aux importations chinoises. Et puis, la dernière annonce, immédiatement après un semblant d'accord, donc la semaine dernière, où Trump dit bah, sur 200 milliards supplémentaires d'importations chinoises, on va encore mettre des taxes qu'on n'avait pas encore annoncées. Donc il y a une guerre, bien sûr, des communiqués, une guerre, bien sûr, des menaces sur les importations. Et puis la Chine a répondu le lendemain en disant « Eh bien, nous n'importerons plus aucune denrée alimentaire des États-Unis ». Donc la guerre commerciale, c'est bien sûr une guerre de communiqué, mais c'est aussi naturellement une guerre de taux de change, dans la mesure où certaines devises peuvent être, comme le disent les Américains, manipulées.
Mais quand la Chine, pardonnez-moi, quand la Chine dévalue sa monnaie, est-ce qu'elle ne prend pas aussi des risques pour sa propre économie?
Alors elle prend des risques sur un certain nombre de terrains, effectivement. Elle prend des risques sur sa propre économie parce que ce qu'elle importe, ce sont principalement des matières premières destinées à faire tourner la chaudière, si j'ose dire, c'est-à-dire du pétrole en particulier. Elle importe des matières premières. Elle importe des choses qui sont de moins en moins importantes, qui sont des matières premières métalliques en particulier, parce qu'elle fait beaucoup de transformations pour son industrie sidérurgique. Ça devient de moins en moins important, mais surtout le risque important qu'elle prend, c'est le risque de crédibilité. Elle a reculé jusqu'à présent devant l'utilisation de ce qu'on appelle l'arme du change, effectivement, parce qu'on sait bien qu'un pays qui se respecte ne cherche pas à dévaluer pour devenir compétitif. On est compétitif en soi-même, mais pas nécessairement en laissant filer sa monnaie, ce qui est une façon un peu artificielle de devenir compétitif. Donc effectivement, on perd de la crédibilité. Il faut rappeler que c'est depuis 2008 qu'on n'avait pas touché ce seuil que vous avez indiqué de 7 yuan contre dollar. Depuis 2008, le yuan, la devise chinoise, s'était pratiquement apprécié de façon constante, ce qui avait donné beaucoup de crédibilité à la politique monétaire chinoise.
Les dirigeants de la Banque centrale chinoise européenne disent qu'ils ne manipulent pas la monnaie. Est-ce qu'il faut les croire d'abord? Est-ce qu'il y a des risques aussi de sanctions internationales? Parce que les États-Unis ont l'intention de porter l'affaire devant le Fonds monétaire international.
Oui, alors, si vous voulez, le terme de manipulation est utilisé de façon très précise lorsqu'on a des preuves. Néanmoins, il ne s'applique qu'à moitié dans le cadre d'une devise qui, de toute façon, n'est pas totalement convertible. On peut imaginer taxer de manipulation une devise qui serait complètement échangée sur des marchés libres. Or, il faut se souvenir que la devise chinoise, on peut la traiter lorsqu'on a une transaction commerciale à effectuer, mais lorsqu'on a une transaction en capital, c'est-à-dire lorsqu'on fait une acquisition à l'étranger, ou lorsque on accepte des capitaux qui viennent de l'étranger, il y a un certain nombre d'autorisations à demander. Donc de toute façon, on n'est pas dans un environnement libre. Donc ça ne sert à rien de dire manipulation ou pas manipulation, puisqu'on n'est pas dans un monde post-Bretton Woods, si j'ose dire, en Chine, où les devises flotteraient tout à fait naturellement dans un cadre d'absence de manipulation. De toute façon, la devise chinoise a son taux fixé tous les jours. Et une fois qu'il a été fixé, aujourd'hui à 7,03 pour le marché domestique, eh bien, c'est fait. Donc, le terme de manipulation pourrait s'appliquer, mais on est dans un environnement légèrement différent de celui des devises qui s'échangent librement.
Et donc, pas forcément de chance pour les États-Unis que leur demande de sanctions au FMI aboutisse.
Il y a un aspect effectivement de communication dans ce propos qui a été brandi plusieurs fois, y compris il y a quelques années lors de négociations avec d'autres administrations.
Alors il y a un autre volet de la riposte chinoise dans cette guerre commerciale, c'est aussi un moyen de pression d'ailleurs dans les négociations. Le blocage de tous les produits agricoles américains depuis cette nuit, est-ce que ça peut impressionner Donald Trump pour qu'il renonce au nouveau droit de douane qu'il entend mettre en place à partir du 1er septembre?
En fait, c'est un message qui est envoyé aux électeurs putatifs de Donald Trump. C'est-à-dire que Donald Trump souhaite se faire élire, en particulier avec un électorat d'agriculteurs. Et ces gens-là, dès qu'ils voient que leurs produits éventuellement ne se vendraient pas là où ils se vendent d'habitude, peuvent être tentés de se détourner de Donald Trump. C'est ça le message qui est envoyé. Néanmoins, ce dont dispose Donald Trump, et il a déjà utilisé cet outil, bah, c'est de subventionner au moins jusqu'au 4 novembre 2020, c'est-à-dire les élections présidentielles, ces électeurs qui seraient éventuellement déçus par sa posture. Donc là, on est dans une manipulation non plus de la devise, mais des opinions publiques. On n'est pas tout à fait sûr que la Chine soit très rompue à la manipulation des opinions publiques dans une démocratie.
Merci beaucoup Jean-François Di Meglio pour toutes ces explications sur cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Vous présidez l'Institut de recherche Asia Center et vous dirigez aussi la publication Asia Trends.